Je fus bien étonné d'être réveillé au petit jour par une voix qui me psalmodiait à plein gosier. Je prêtai l'oreille, c'était le prisonnier. Il continua sur un ton moins éclatant et finit par cesser tout à fait. Cette pratique pieuse me donna du cœur cet homme une opinion presque favorable. Après quelques silences, « Vous avez, me dit-il, bien travaillé cette nuit ?»« Chantez-vous aussi tous les matins ?» interrompis-je. « Oui, dès mon enfance. Pensez-vous que sans les consolations de la religion, je puisse ne pas succomber à mon infortune ?»« Non, mais je m'étonne plutôt que la religion ne vous ait pas détourné du crime qui vous a conduit en prison. »« Mais ce crime, j'en suis innocent !» Dieu a permis l'erreur de mes juges, que la volonté de Dieu soit faite. Je serais résigné, ajouta-t-il, si seulement avec la nourriture du corps, j'avais la paix de l'âme, et je n'ai point de Bible. Quoi ? Interrompis-je. On vous refuserait une Bible ? Or fût-nous à celui qu'on croit méprisable. Mais il faut que vous ayez une Bible. Oh, je veux que vous en ayez une. J'irai plutôt vous porter la mienne. Bon jeune homme, dit-il avec un accent de reconnaissance, pénétrer jusqu'à moi, impossible. D'ailleurs, j'y consentirai pas. L'aspect de cette affreuse demeure ne doit pas contrister vos regards. Vous dirai-je toutefois ce qui me porte à m'adresser à vous ? Hier, quand je vis une corde remonter ses gâteaux jusqu'à vous, « Que dirait-il, pensais-je, avec envie, une âme compatissante qui, pareillement, fasse remonter le pain de vie jusqu'au pauvre prisonnier ?»« Ah, ce trait de lumière, avez-vous une corde ?»« La Providence, reprit-il, a permis que j'en puisse avoir une, que je réservais pour cet unique usage. »« Mais vous aurez une Bible, m'écriai-je en l'interrompant, vous l'aurez !» Et tout joyeux de l'idée d'être si véritablement utile à cet infortuné, je cherchais avec empressement ma Bible parmi mes livres que, la veille, j'avais entassés dans l'armoire. Pendant que je cherchais ainsi, il me sembla entendre du côté de la prison comme un murmure étouffé. Ayant prêté l'oreille, « Est-ce vous ? » dis-je au prisonnier. Il ne répondit rien, mais le murmure continuait de se faire entendre plus distinct et plus plaintif. « Mais qu'est-ce, qu'avez-vous ? » lui criai-je alors, d'un accent ému et pressant. « Un horrible mal, répondit-il, et sans remède. L'un de mes fers, trop étroit pour ma jambe, a provoqué une enflure, qui, pressée par le métal... « Aïe ! » s'écria-t-il en s'interrompant. « Mais achevez, achevez, pauvre homme. Oh, me fait souffrir les plus cruelles tortures. C'est ainsi que, privé de tout sommeil, je vous voyais travailler cette nuit. Infortuné, vous ne demandez pas qu'on vous soulage ? Il me visite que tous les 5 jours. Aïe ! Encore 3, et je leur demanderai... Oh, que vous me faites pitié, ne pourrais-je donc ? Rien, rien, pauvre enfant, il faudrait... Mais je sens déjà que votre pitié me soulage, allez. Il faudrait pouvoir... Oh, aïe, 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 il faudrait pouvoir... Miséricorde, miséricorde, le sang coule. Oh, pouvoir user un peu le fer. Mais une lime, m'écriai-je, une lime. Attendez, dans ma Bible... J'avais une lime, car à travers mon latin, j'étais un peu menuisier, comme Émile. Je la mis précipitamment dans le livre, mais après avoir lié tout avec une ficelle, je me souvins avec désespoir que j'étais enfermé. Cependant, le prisonnier continuait à se plaindre de la façon la plus lamentable, et chacun de ses cris me déchirait le cœur. Aussi, je songeais déjà à forcer la serrure de ma porte, lorsque, à la vue d'un chiffonnier qui passait dans la rue, J'éprouvais le plus vif plaisir. « Tiens !» lui criai-je, « attache cela à cette corde que tu vois là-bas contre la muraille. Vite, vite, c'est pour soulager un pauvre homme. » Le chiffonnier attacha le paquet qui remonta rapidement. Au même instant, on ouvrait ma porte. C'était Monsieur Ratin. Il me trouva à l'ouvrage. « Hier, monsieur, me dit-il dans l'indignation, vous m'avez jeté votre conduite. J'oubliais de vous donner des devoirs à faire pendant ces 2 jours. »« J'en ai fait, lui dis-je, tout tremblant. » Monsieur Ratin examina les devoirs avec quelque défiance, tant le procédé lui paraissait nouveau. Puis, certain que c'était bien de l'ouvrage fait depuis ma captivité, « Bien voulu, reprit-il, d'avoir fui de vous-même les dangers de l'oisiveté. Un jeune homme oisif ne saurait que faire des choses détestables, car il est à la merci de toutes les pensées mauvaises, qui, à l'âge où vous êtes, assiègent sur l'esprit paresseux. Souvenez-vous des Gracques qui ne causèrent tant de plaisir à leur mère que parce qu'ils furent de bonne heure rangés et studieux. « Oui, monsieur, dis-je. « Vous ne vous êtes pas donné le temps de manger, » reprit ce ratin, en apercevant mon repas resté intact. « Non, monsieur. Ah, j'aime à y reconnaître l'effet du chagrin profond que vous avez dû ressentir de votre conduite d'hier. »« Oui, monsieur. Avez-vous fait, à cet égard, de sérieuses réflexions ?»« Oui, monsieur. Avez-vous bien reconnu ?» Comment du fou rire vous êtes tombé dans l'irrévérence ? Oui, monsieur. Dans ce moment, quelqu'un montait l'escalier. Et de l'irrévérence dans le mensonge ? Oui, monsieur. On ouvrait la porte de l'atelier. Et du mensonge ? Oui, monsieur. On faisait un cri de stupéfaction. Quel est ce bruit ? Oui, monsieur, on en était aux exclamations, aux apostrophes, aux grandes prosopopées. Oh, j'étais prêt de me trouver mal. Rassemblant néanmoins toutes mes forces pour détourner l'attention de monsieur Ratin de dessus les prosopopées, quand vous m'eûtes quitté hier, lui dis-je, attendez, interrompit-il, toujours plus attentif à ce qui se passait dans l'escalier. Il est vrai que le vacarme y était grand. Perdu, perdu, criait le peintre à tue-tête. Mais il faut qu'on soit entré par la fenêtre. Il s'en approcha. Jules, êtes-vous resté chez vous depuis hier soir ? Oui, monsieur, dit en s'avançant monsieur Ratin, et par mon ordre. Eh bien, monsieur, mon atelier est en déroute, mes tableaux détruits, mon chevalet à bas. Et votre élève doit avoir tout entendu. Voulez-vous écouter un pauvre prisonnier ? Dit alors une voix qui partait du soupirail de l'évêché. Moi, j'ai tout vu, je vous dirai tout. Ben, parlez, dites. Ben, vous saurez donc, monsieur, qu'hier soir, il y avait grande société sur ce toit, précisément à l'entrée de votre fenêtre. C'était 5 chats. Oh, vous savez quand ces messieurs comptent fleurettes. « Abrégé, dit M. Ratin, les propos sont bruyants, la chatte était coquette. »« Abrégé, vous dis-je, répéta M. Ratin, ceci n'apporte pas au fait principal. »« Oh, je vous demande bien pardon, monsieur, car sans la coquetterie de cette demoiselle et la jalousie des 4 galants. »« Jules, me dit M. Ratin, retirez-vous un instant sur l'escalier. »« Oh, je ne me fis pas prier. » « Tout, continua le prisonnier, se serait passé en douceur. Il miaulait donc d'une façon fort tendre, mais madame n'écoutera aucun, se lustrait le visage du velours de sa patte. Vous eussiez dit Pénélope au milieu des prétendants. Et puis, dit le peintre, un peu vite, et puis tout à coup, voici un des matous qui se permet d'appliquer sa griffe sur le museau d'un des prétendants. « Celui-ci prend mal la chose, les autres s'en mêlent, pic-pam, c'est le signal, guerre à mort. »« C'est plus qu'une pelote fourrée, hérissée de griffes de dents, un concert à réjouir le diable. Bien pendant qu'ils se battent, Pénélope saute dans l'atelier, toute la pelote lui saute après. Alors j'ai plus rien vu, mais au sabbat qui se fit, je jugeais qu'ils avaient pu renverser quelque chose, qui en aurait renversé quelque autre. C'était peu après 8 heures. J'étais très humilié du service que me rendait en cet instant le prisonnier, d'autant plus que ce mensonge hardi après tant de pitié, ce ton facétieux après de si vives souffrances, calmait subitement tout l'intérêt que m'avait inspiré cet homme. Aussi je suis convaincu que, sans la présence de M. Ratin, j'aurais eu la force de le démentir sur l'heure et de tout avouer au peintre. Mais il y avait de l'amour dans mon crime, et la haute pudeur de M. Ratin m'apparaissait comme un grand roc sinistre, contre lequel, au moindre soupçon de sa part, j'irais me briser sans retour. Pendant que ces choses se passaient, la calèche venait d'arriver devant la maison. Déjà, la jeune miss et son père montaient l'escalier. « Ma séance !» s'écria le peintre avec désespoir. « Prisonnier, oh, vous nous faites un conte absurde. Voilà un portrait que j'avais adossé à la muraille et que je trouve tourné à l'extérieur. Sont-ce les chats qui retournent les portraits ? On est venu par la fenêtre. Jules, qu'avez-vous vu ? Jules, chassez ce chien !» me dit au même instant M. Ratin. Il faut savoir qu'en cet instant, le bel épagnol flairait curieusement le parapluie neuf de M. Ratin. Je m'empressai de le chasser jusque dans les greniers, et par-delà, pour laisser au peintre le temps d'oublier sa fatale question. Quand je rentrai, il était en effet occupé à accueillir ses hôtes, les priant de l'excuser s'il les recevait au milieu d'un aussi affreux désordre. « Ah, si vous ne partiez pas demain, ajouta-t-il, je vous prierai de remettre un autre jour cette dernière séance. »« Il est malheureusement impossible que nous différions notre départ, » répondit le vieillard. « Mais de grâce, ne vous gênez point, et que notre présence ne vous empêche pas de faire ces premières recherches indispensables pour arriver à la connaissance du coupable. » Alors le peintre monta lui-même sur le toit pour en examiner les abords. Fort heureusement, M. Ratin, qui était à 1000 lieues de me supposer la moindre part dans ces événements, après avoir remis soigneusement son parapluie dans le fourreau, était revenu auprès de la table, feuilleté mes livres, y marquant à mesure les endroits qui devaient faire le sujet de mes devoirs. « En considération, me dit-il, du travail que vous avez présenté des dispositions meilleures où je vous vois, » Ici, le peintre entra et tout préoccupé de son idée. Bon, « N'avez-vous pas une chambre, monsieur ?»« Ah oui, la voici. Auriez-vous la bonté de me l'ouvrir ?»« On n'a pu parvenir sur le toit que par là, et nous saurons par où l'on a pu s'introduire dans la chambre. »« Volontiers, monsieur, » dit monsieur Ratin. Et ayant pris la clé dans un tiroir à son usage, il la mit dans la serrure que j'avais rajusté de mon mieux, tandis que, pâlissant de stupeur, je feignais une grande application au travail. Pendant que ces messieurs procédaient à leur inspection, je m'aperçus d'une rumeur dans la prison. Des hommes parlaient avec véhémence, quelques mots sinistres parvenaient à mon oreille. Le factionnaire était aux écoutes et deux passants s'étaient arrêtés pour attendre l'issue de cette scène. « Voici la corde !» cria une voix. « La lime, la lime !» cria une autre voix. « Ici, tenez, sous cette pierre !»« Mais c'est bien ce mouchoir de poche !» dit au même instant M. Ratin. « Serait-il possible ? Jules !» La porte était ouverte. Je m'enfuis, tout chancelant d'épouvante, sans autre projet que de me dérober pour l'instant aux affreuses tortures de la peur et de la honte. Mais quand j'eus fait 100 pas dans la rue et qu'ayant tourné la tête, j'ai reconnu l'honnête chiffonnier qui entrait dans la maison en montrant à un magistrat le chemin de ma demeure. Je doublai le pas et dès que j'eus tourné l'angle de la rue voisine, je courus de toutes mes forces jusqu'aux portes de la ville que je franchis non sans éprouver une grande terreur à la vue des paisibles gendarmes qui stationnent auprès. Tout en m'éloignant, j'eus le plaisir de réfléchir sur ma situation qui me parut désespérée. Retourner sur mes pas, ce n'était pas seulement retomber entre les mains de M. Ratin, c'était bien certainement me livrer aux gendarmes. Et cette idée me causait la plus sinistre épouvante. Ainsi agité par ces réflexions et la frayeur soutenant mon courage, je marchais tout d'une traite jusqu'à certain pré voisin de Coppet où je m'assis enfin sur la terre étrangère. C'est à peine si dans ce lieu écarté je me croyais en sûreté contre les atteintes de la justice. Je tournais sans cesse mes regards du côté de la grande route et chaque fois que des bestiaux, un âne, quelques chariots y soulevaient un peu de poussière, je m'imaginais voir toute la gendarmerie lancée à ma poursuite dans toutes les directions. Cette angoisse me préoccupant de plus en plus, je pris un parti décisif. C'était de poursuivre ma route du côté de Lausanne, où mon oncle faisait un séjour. Je me remis donc en marche. À tout âge, c'est une triste chose que l'exil. Mais pour l'enfant, qu'il est voisin du seuil paternel, 3 lieues à peine me séparaient de ma ville natale. Il me semblait qu'abandonné au sein du vaste univers, j'eusse perdu tout appui, tout asile. Aussi suivais-je, le cœur bien gros, la rive de ce lac, si riant jadis, à voir de ma fenêtre. À mesure que je m'éloignais, moins dominé par la crainte, ces sentiments prenaient sur moi plus d'empire, et 2 ou 3 fois, m'étant assis sur le bord de la route, ma tristesse devint si forte que je fus tenté de rebousser chemin et d'aller implorer le pardon de mon maître. Il était trop tard. D'ailleurs, à force de marcher, j'allais me trouver bientôt aussi près de Lausanne que de Genève, de mon oncle que de M. Ratin. Cette circonstance ranimait puissamment mon courage. Le calme renaissait en moi. Déjà, je recommençais à songer à la jeune Miss et à renouer le fil des tendres rêveries qui m'avaient charmé la veille, à la même heure. Au milieu de cette nature enchantée, son image se présentait à mon cœur plus douce encore. Elle s'y associait à la pureté des cieux, aux teintes vaporeuses des monts, à la fraîcheur de ses beaux rivages, et l'exil perdait sa tristesse. Que de sève dans l'adolescence! Est-ce bien moi que je viens de peindre? Est-ce bien moi, ce jeune garçon, qui suit la rive d'un pied léger, regardant avec amour l'azur des flots, les côtes vertes de Savoie, l'antique manoir d'Hermans, peuplant l'air et l'espace du vif sentiment qui le domine? Au crépuscule, je me détournais de la route pour demander asile chez les paysans, qui acceptèrent en retour l'unique pièce de monnaie que je possédasse. Je partageais leur soupe et leur gîte rustique, et le lendemain, au point du jour, je les quittais pour continuer mon voyage. J'étais parti sans casquette. Les rayons du soleil et le vent brûlaient mon visage. Aussi m'arrêtai-je sous le porche des fermes pour y goûter quelque fraîcheur jusqu'à ce que le regard des métayers ou des passants me chassa de ses retraites. En effet, je redoutais toujours que quelque soupçon des crimes que j'avais commis ne fût le motif de cette curiosité dont ma jeunesse et mon bizarre accoutrement étaient l'unique cause. Après le tranquille village d'Alamand, On voit sur la gauche de la route de magnifiques chênes qui forment la lisière d'un grand bois. De dessous cet ombrage, l'œil planant sur toute l'étendue du lac s'arrête du côté du Valais contre les majestueuses parois des Alpes où, tourné vers Genève, se promène mollement sur une suite de cimes douces et lointaines dont les dernières se confondent avec les plages du ciel. Je ne pus résister au charme de cet ombrage et j'allais m'y établir pour y manger le morceau de pain noir dont les paysans m'avaient pourvu. Je songeais au plaisir de me jeter bientôt dans les bras de mon oncle. Ce désir était si pressant, si extrême, qu'à la seule pensée qu'il pût être déçu, je m'abandonnais au découragement. « Mon oncle, mon bon oncle, disais-je, le cœur gonflé d'attendrissement. Oh, que je vous vois seulement, que je vous parle, que je sois où vous êtes !» En ce moment, une voiture de voyage passait sur la grande route, traînée par 6 chevaux de poste dont le galop soulevait un long tourbillon de poussière. Le postillon faisait claquer son fouet, tandis que les domestiques dormaient nonchalamment sur les sièges. Cette voiture avait déjà dépassé d'environ 200 pas l'endroit où j'étais assis, lorsqu'elle s'arrêta, et un des domestiques étant descendu se dirigea vers moi. J'allais m'enfuir lorsque je crus reconnaître John, le domestique de la jeune miss. « Êtes-vous, me dit-il, le jeune homme qui a disparu hier de la maison de Saint-Pierre ?»« Oui, lui dis-je. « Alors, suivez-moi. »« Où ? » ?»« Mais vers la voiture. »« Ah, votre maître est dans un bel état, allez. »«
Où est-il, mon maître ?»«
Mais il vous cherche par les 4 chemins, petit drôle. » Ces mots me donnèrent quelques soupçons que M. Ratin pouvait s'être joint au voyageur, en sorte que je me refusais à suivre John. Lorsque je vis de loin une robe blanche descend de la voiture. Je me levai aussitôt et je me mis à courir vers la jeune miss pour ne pas l'obliger à marcher sur cette route poudreuse. Mais quand j'approchais, la honte et l'émotion me firent ralentir le pas et je finis par m'arrêter à quelque distance d'elle. « Vous êtes Monsieur Jules, n'est-ce pas ?» me dit-elle d'un ton affable.
« Oui, mademoiselle. »
« Oh, comme le soleil vous brûle! Montez, je vous prie, dans la voiture. Votre maître est fort en peine, et j'ai bien du plaisir que nous ayons rencontré. Montez, mon ami, dit le vieillard, qui avait mis la tête à la portière, montez! Nous causerons un peu de votre affaire. Vous devez être fatigué. » Je montai, et la voiture repartit aussitôt. Oh, j'étais dans un état d'ivresse qui m'ôtait la parole. Le bonheur, le trouble, la honte faisaient battre mon cœur et coloraient d'une vive rougeur mon visage hâlé. Je tenais encore le reste de mon morceau de pain noir. « Vous n'avez pas fait bien bonne chère à ce que je vois, me dit le vieillard. De quel hôtel sortez-vous, je vous prie ?»« Oh, de chez les paysans, monsieur, qui m'ont hébergé cette nuit. » « Et où comptiez-vous aller ce soir ?»«
À Lausanne, monsieur. »«
Aussi loin que cela, reprit la jeune miss, et découvert comme vous êtes. »«
Oh, mais plus loin encore partout, mademoiselle, jusqu'à ce que j'aie rencontré mon oncle. »
Et les larmes me vinrent aux yeux.
« Il n'a plus que lui, » dit-elle à son père.
Et elle fixa sur moi un regard compatissant, dont le charme réalisait tout ce que j'avais rêvé de plus hardi à ma fenêtre.
« Mon enfant, reprit le bon vieillard, vous allez rester avec nous jusqu'à Lausanne, où nous vous remettrons aux mains de votre oncle. Vous avez fait là un coup de tête, toi. Mais de quoi donc avez-vous eu si peur ?»«
Mais c'est moi, monsieur, qui ai donné cette lime aux prisonniers. » Il souffrait cruellement, je vous assure. C'était seulement pour desserrer un de ses fers.
Eh bien, je vois là, mon ami, que le mouvement d'un bon cœur. À votre âge, on n'est pas tenu de savoir que lorsqu'un prisonnier emprunte une lime, ce n'est jamais que pour un certain usage. Mais vous ne me parlez pas de l'atelier. C'est pourtant vous, n'est-ce pas?
Oui, monsieur. Mais je l'aurais dit au peintre, à mon oncle, à vous, mais j'avais peur de monsieur Ratin.
Mais c'est donc un terrible homme que ce monsieur Ratin. Mais encore, qu'allez-vous faire dans cet atelier? Est-ce vous qui avez retourné le portrait de ma fille?
Je rougis jusqu'au blanc des yeux. Il se mit à rire.
Oh, c'est ceci qui est grave, car c'était sûrement pas pour voir ma figure. À vous, Lucie, de vous fâcher.
Point du tout, mon père, dit-elle en souriant avec une grâce charmante. Je sais que monsieur Jules aime les arts. Il dessine lui-même avec talent. Rien de plus naturel qu'il voulût voir l'ouvrage d'un homme habile.
Lucie, reprit le vieillard avec une douce malice, vous n'êtes pas tenu non plus de savoir que lorsqu'on retourne un tableau où se trouve votre figure, il est fort naturel que ce soit pour la voir.
Puis comme il voyait ma honte,
oh, ne rougissez pas, mon enfant. Croyez bien que je vous en estime pas moins et que ma fille vous pardonne, n'est-ce pas, Lucie?
Un léger embarras succéda à ces paroles, mais il ne se prolongea que pour moi seul. Bientôt, j'eus à répondre à toutes les questions que me firent ces aimables personnes. D'après ce qui venait d'être dit, j'avais remarqué chez le vieillard une gaieté plus cordiale encore, et en même temps, chez la jeune miss, un peu plus de réserve, mais non moins d'intérêt et de sollicitude pour ma situation. Pour moi, je ne tournais pas les yeux sur elle, que je ne me sentisse comme enivré de sa vue et rempli des plus doux transports de plaisir. Mais nous touchons à la ville.
Votre oncle vous grondera-t-il? Me dit le vieillard.
Oh non, monsieur, et puis je serais si joyeux de le voir qu'encore cela me ferait-il peu de chagrin.
Aimable enfant, dit Lucie en anglais,
je vais tout de même vous remettre entre ses mains. Rue du Chêne, dites-vous. John, faites arrêter rue du Chêne, numéro 3.
Toute ma crainte était que nous ne trouvassions pas mon oncle chez lui, lorsque, la voiture s'étant arrêtée, un jeune enfant nous dit qu'il était en ce moment dans sa chambre. Qu'il descende, dis-je à l'enfant.
Non, ne vous portons, dit le vieillard. Est-ce bien haut?
Au premier, répondit l'enfant. Et comme chez le peintre, la jeune miss, soutenant le bras de son père, entrait dans l'allée avec lui, pendant que j'aurais baisé les traces de ses pas. Mon oncle venait de rentrer. À peine l'eus-je vu que je courus me jeter dans ses bras.
« Oh, c'est toi, Jules, dit-il. »
Mais je l'accablai de caresses sans pouvoir lui répondre. « Mais tu arrives sans chapeau, mon enfant, mais en bonne compagnie, à ce que je vois. Madame et monsieur, veuillez prendre la peine de vous asseoir. » Je quittai sa main pour approcher des sièges.
« Nous ne voulons, monsieur, dit le vieillard, que remède entre vos respectables mains cet enfant coupable à la vérité d'une étourderie, mais dont le cœur est bien honnête. Il vous dira lui-même par quelles circonstances nous avons eu le plaisir de l'avoir pour compagnon de voyage et pris la liberté de nous présenter chez vous. Adieu, mon ami, me dit-il en me touchant la main. Je vous laisse mon nom sur cette carte afin que vous sachiez qui je suis si jamais vous me faites le plaisir de recourir à mon amitié.
Adieu, monsieur Jules, ajouta l'aimable fille, et elle me tendit sa main. Je les vis se retirer, les yeux mouillés de larmes. C'est de cette façon que je retrouvai mon bon oncle Tom. Au bout de quelques jours, nous retournâmes à Genève. Il m'ôta monsieur Ratin et me prit avec lui. Ainsi s'ouvrit ma jeunesse. Je raconterai dans le prochain chapitre comment j'en sortis à 3 ans de là.